Et la Cour suprême a estimé que le moyen pour des grands groupes industriels ou pour des riches de s'exprimer, c'était de financer les campagnes. Et que dès lors qu'on contingenterait trop brutalement ce financement des campagnes, on remettrait en cause la liberté d'expression garantie à chaque citoyen américain au terme des premiers articles de la Constitution des États-Unis.
C'est dommage que Noam Chomsky soit parti, lui qui est tellement attaché à la liberté d'expression. Là, il y a un détournement de ce à quoi il nous convainc d'adhérer, l'idée de la liberté d'expression. Et là, il y a un détournement pervers au nom de la liberté d'expression.
Voilà ce qu'on mais peut... il l'a évoqué lors de la réunion qu'on a organisée à la Mutualité, en expliquant que la grande perversité de l'arrêt de la Cour suprême, c'est d'assimiler les individus et les entreprises. Dire que les individus ont le droit de s'exprimer, c'est une chose, mais dire que les entreprises, comme les individus, ont le droit de s'exprimer et que leur forme d'expression, c'est la contribution aux campagnes électorales, évidemment, tout ça conduit à la prévarication la plus absolue. Et l'un des exemples qui m'a intéressé dans l'article que j'ai fait donc sur les États-Unis, je suis tombé dessus par un hasard assez extraordinaire en feuilletant dans mes notes, dans mes articles. Je suis tombé sur un article du Washington Post de février 1997 qui racontait comment Clinton avait financé sa campagne de réélection. Alors à l'époque, l'article était intéressant, mais aujourd'hui, il l'est encore plus. Donc cet article indiquait que pour financer sa campagne de réélection, ça c'est une chose relativement connue, Clinton avait proposé au plus gros donateur de sa campagne de venir passer une nuit à la Maison-Blanche. Vous faisiez une très grosse donation, 5 000 $, 10 000 $, et on vous disait, écoutez, venez à la Maison-Blanche et passez une nuit. Bon. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens pour qui c'était un fantasme absolu de passer une nuit. Mais pour d'autres, pour des groupes industriels, il y avait plus intéressant que ça. Et justement, alors pour ces groupes industriels, on avait prévu autre chose. On avait prévu ce qu'on appelait des coffees à la Maison-Blanche, des rencontres autour d'un café, où ces groupes industriels viendraient plaider leur cause auprès du président des États-Unis, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre du commerce, selon les cas, avec, assistant à l'entretien, le responsable des finances du Parti démocrate. Vous comprenez l'allusion. En tout cas, eux, ils la comprenaient très bien. Donc, il y a eu 103 réunions comme ça, au cours desquelles les grands groupes industriels venaient plaider leur cause à la Maison-Blanche et, en sortant de la réunion, faisaient des dons de 5 000, 10 000, des sommes assez considérables au Parti démocrate, ce qui a financé la campagne du président Clinton. Bon, ça, c'est intéressant. Mais il y a une chose qui m'a paru encore plus intéressante et que le journaliste du Washington Post ne pouvait pas savoir à l'époque en écrivant son article, c'est que l'une de ces rencontres, organisée le 13 mai 1996 précisément, réunissait le président Clinton, le ministre des Finances et les grands responsables des banques américaines qui étaient venus plaider leur cause auprès de l'administration. Qu'est-ce que demandaient ces responsables des banques ? Elle demandait que cesse cette séparation introduite par le New Deal et par une loi de Roosevelt signée en 1933 qui interdisait aux banques de dépôt de risquer l'argent de leurs déposants en spéculant sur les marchés financiers. Par le plus grand des hasards, quelques jours après cette réunion, un communiqué sort annonçant que la Maison-Blanche veut remettre en cause cette loi que maintenant vous avez tous entendu évoquer au moins une fois, la loi Glass-Steagall, qui interdisait donc aux banques de dépôt de spéculer sur les marchés financiers. 1999, le président Clinton signe cette loi qui abolit donc les dispositions prévues par Glass-Steagall. Et comme vous le savez, 2008, on estime qu'une bonne partie du krach financier qu'on a connu et dont les conséquences sont payées encore de nos jours ont été la conséquence de cette abolition de la loi Glass-Steagall. Donc on voit que cette prévarication est tout à fait légale, parce que ce qu'on vous raconte ici est évidemment tout à fait légal. Au terme des lois américaines, toutes les donations sont inscrites, enregistrées, et puis après vous n'avez plus qu'à faire le lien entre les donations et puis les politiques publiques. Entre les fonds que reçoit tel sénateur et la loi qu'il a introduite devant le Sénat, qui va dans le sens des intérêts du groupe industriel qu'il a financé. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier aspect qui me paraît quand même assez significatif de ce débat sur l'oligarchie, les financements politiques et la corruption de la politique. Le deuxième aspect,